sur Radio Orient. Bonjour à tous, votre rendez-vous d'information avec Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, après la condamnation en appel de Christophe Glaize, Emmanuel Macron promet d'agir auprès des autorités algériennes. Une délégation des 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée en Syrie pour une rencontre avec les nouvelles autorités. Enfin, en France, la défenseure des droits publie une enquête sur les discriminations religieuses menées auprès de 5000 personnes. 34% des musulmans interrogés disent avoir subi des discriminations en raison de leur religion. L'Élysée fait savoir qu'Emmanuel Macron a appris avec une profonde inquiétude la condamnation en appel à 7 ans de prison du journaliste français Christophe Glaize en Algérie. Il affirme qu'il continuera d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée en Syrie. Cette visite intervient à quelques jours du premier anniversaire de la chute de l'ex-président Bachar el-Assad. Les 15 diplomates onusiens sont arrivés par le point de passage entre le Liban et la Syrie. Le mois dernier, le Conseil de sécurité avait levé les sanctions contre Ahmed el-Sharet, ancien djihadiste devenu chef de l'État par intérim. Benjamin Netanyahou salue une atmosphère positive dans les premières discussions directes depuis 40 ans entre Israël et le Liban. Alors que les deux pays sont toujours techniquement en état de guerre, le premier ministre libanais Nawaf Salam a lui souligné qu'il ne s'agissait pas de négociations de paix. Les deux délégations conduites par des civils se sont rencontrées hier au quartier général de la Finul à Nakoura en présence de l'émissaire américain pour le Proche-Orient. L'armée israélienne a identifié la dépouille de l'avant-dernier otage qui était détenu à Gaza, un ressortissant thaïlandais. Israël attend désormais le retour de la dépouille de son dernier otage dans la bande de Gaza, un jeune policier israélien tué le 7 octobre 2023. 5 Palestiniens tués à Gaza dans un raid israélien, parmi eux 2 enfants. Israël dit avoir visé un membre du Hamas. Et puis 200 personnalités demandent la libération du dirigeant palestinien Marwan Barghouti. Un appel notamment par le prix Nobel Annie Ernaux, le chanteur Sting ou encore l'ancien footballeur Eric Cantona. Enfin, les discriminations liées à la religion augmentent en France, notamment envers les musulmans. C'est ce qu'affirme un rapport publié par la défenseure des droits qui appelle à une prise de conscience ce sujet. Dans cette enquête menée auprès de 5000 personnes, 7% des sondés déclarent avoir fait l'objet de discriminations fondées sur la religion au cours des 5 dernières années, contre 5% en 2016. Le taux monte à 34% chez les personnes de confession musulmane. Les femmes musulmanes sont 38% à faire état de discrimination contre 31% des hommes de la même religion. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Dans quelques instants, le dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Emmanuel Macron a donc appris avec une profonde inquiétude la condamnation en appel à 7 ans de prison du journaliste français Christophe Glaize en Algérie. Une déclaration ce jeudi de l'Élysée, cela au lendemain de la condamnation du journaliste détenu à Tizi Ouzou. On fait le point avec François-Xavier de Calonne.
Et oui, cela a été un véritable choc pour tous ses proches. La justice algérienne a donc confirmé la condamnation à 7 ans de prison à l'encontre du journaliste français Christophe Glaize, condamné pour apologie du terrorisme. Il est emprisonné depuis juin dernier à Tizi Ouzou, en Kabylie. La présidence française assure donc que le pays va continuer d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais. collaborateur des magazines français SoFoot et Society. Le journaliste sportif, âgé de 36 ans, s'était rendu en Algérie en mai 2024 pour un article sur le club de football le plus titré du pays, la jeunesse sportive de Kabylie. Et lui est reproché d'avoir été en contact avec un dirigeant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un mouvement classé comme terroriste par l'Algérie. Il a aussi été reconnu coupable de possession de publications à des fins de propagande de nature à nuire à l'intérêt national. Au cours de l'audience, la Cour lui a demandé s'il savait que le MAC, ce mouvement, était considéré comme un mouvement terroriste en Algérie depuis mai 2021, quand il avait rencontré son président, Ferhat Mehni, à Paris, en octobre de la même année. Réponse du journaliste sportif, je n'étais pas au courant. Et j'ai honte de le dire, cela porte atteinte à mes compétences, j'avais complètement raté cette info. Des sanglots dans la voix, Christophe Laize ajoute qu'il n'a qu'une seule douleur, celle d'être coupé de sa famille. Le journaliste fait profil bas, il demande la clémence du juge. Malgré cela, le couperet tombe, mais Paris n'entend pas abandonner son ressortissant, moins médiatisé jusqu'à présent que l'affaire Sansal. La condamnation en appel du journaliste suscite désormais de très nombreuses réactions, à l'image du président de Reporters sans frontières, Thibaut Brutin.
On appelle à Emmanuel Macron qui doit se bouger pour faire en sorte que Christophe Laize sorte le plus vite possible. Il est inacceptable qu'un de nos concitoyens, qui n'a fait que son travail, c'est un journaliste sportif. Franchement, il faut l'entendre, c'est un journaliste qui n'a fait que son travail de journaliste sportif. Alors certes, il s'intéresse au sport comme un fait social, mais où allons-nous si on condamne pour 7 ans de prison un journaliste pour les sources et les contacts qu'il a pu avoir? Tout cela n'a aucun sens.
Quant à l'avocat de Christophe Laize, Emmanuel Daoud, il souligne que l'expertise de son ordinateur n'a rien donné et qu'il n'y a aucune preuve matérielle attestant de l'accusation d'apologie du terrorisme. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, souligne que la libération de Christophe Laize est un élément majeur des discussions en cours entre Paris et Alger. Et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères fait lui aussi part de sa pleine mobilisation.
Merci François-Xavier de Calonne. Hier, le 3 décembre, c'était la journée internationale des personnes en situation de handicap. Un événement pour rappeler l'importance de construire une société plus inclusive et améliorer l'accessibilité et l'autonomie. Mais pour le collectif handicap, l'année s'achève sur un goût amer, comme le souligne Eva Victoria Fontana, chargée de plaidoyer au sein de cette ONG.
Eh bien, malheureusement, les droits des personnes en situation de handicap et ceux de leurs proches continuent d'être bafoués. Aujourd'hui, on est à 15 ans de la ratification par la France de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Et pourtant, on assiste toujours à l'inaccessibilité de la société dans son ensemble, un accès limité aux soins, à l'emploi, à la culture, à un revenu digne. On a des ruptures de parcours pour les personnes, c'est un véritable parcours du combattant pour accéder à ses droits. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la solidarité, le principe de solidarité même, il est mis à mal dans la société dans son ensemble. Au premier rang de tout ça, évidemment, c'est l'État qui faillit à sa mission de protéger les plus vulnérables. Et aujourd'hui, sa logique de désengagement, elle a des implications très concrètes pour la vie des gens. Les droits ne sont pas respectés. Et en plus de ça, la Convention ne va pas être mise en œuvre si l'État poursuit sa logique de désengagement.
Et vous soulignez que cette situation alarmante n'est pas propre à la France.
Non, malheureusement aussi dans l'Union européenne, c'est la même chose. En fait, on a des affichages politiques qui sont très encourageants, avec notamment la stratégie européenne pour les personnes handicapées. Mais en fait, on se rend compte que ça ne produit pas d'effets concrets parce qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont mis et pas d'outils de contrôle et pas d'ambition politique importante. Le message qu'on veut porter, c'est d'investir dans cette solidarité et de ne pas oublier nos principes qui nous permettent de présenter un modèle social fort et qui protège tout le monde.
Eva Victoria Fontana du collectif Handicap, elle répondait à François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Orient.